Le rendez-vous scientifique.
Bonjour, c'est Patrick pour l'interview scientifique. Aujourd'hui, on va parler d'énergie.
Oui, alors comme vous le disiez, Patrick, bonjour.
Bonjour.
Aujourd'hui, nous allons parler d'énergie, mais tout d'abord, quelles sont les principales sources d'énergie ?
Pour les énergies, il y a deux grands segments que l'on considère. Il y a les énergies fossiles et les énergies renouvelables. Quand on parle d'énergie, il faut distinguer les sources primaires et les sources secondaires. Ce sont deux concepts qui sont simples. Une source primaire est issue de la nature, comme le charbon, le pétrole ou encore l'uranium. Une source secondaire est issue d'une source primaire pour être exploitée. Par exemple, l'électricité issue d'une centrale exploite du charbon, du gaz, du fioul, de l'uranium, pour fournir de l'électricité.
Peut-on définir un peu mieux ce qu'est une énergie fossile ?
Les énergies fossiles proviennent de la décomposition d'êtres vivants, des plantes et des animaux enfouis dans le sol il y a plusieurs millions d'années. Ces matières se transforment en combustible, par exemple du charbon, du gaz ou encore du pétrole, sous l'action de la pression, de la température et bien sûr du temps.
Oui, alors maintenant que l'on comprend un peu mieux ce que sont les énergies fossiles, quels en sont les avantages, par exemple, et les inconvénients ?
Pour les principaux avantages, citons la forte puissance énergétique de ces énergies. Un point très important est une production régulière et contrôlable. Il suffit de tourner un bouton pour avoir de l'énergie. Les énergies fossiles sont déployées mondialement dans de très nombreuses infrastructures. Pour les inconvénients, ce sont des énergies non renouvelables, c'est-à-dire qu'elles s'épuisent. Ces énergies sont également polluantes et sont, en général, émettrices de CO2. Mettons à part les centrales nucléaires qui n'émettent pas de CO2. L'extraction des énergies fossiles est généralement polluante et souvent dangereuse.
Vous dites que les énergies sont épuisables, ça je l'ai bien compris, mais concrètement, quelles sont les réserves de ces énergies fossiles ?
En effet, on estime, par exemple, les réserves d'uranium à environ 100 ans, ce qui est problématique pour les centrales fonctionnant à l'uranium-235. Le développement des centrales dites de quatrième génération, réacteurs à neutrons rapides, utiliseront de l'uranium-238 qui est 100 fois plus abondant dans la nature. Le pétrole a des réserves d'environ 53 ans, c'est pas énorme.
C'est absolument rien.
Pas grand-chose. Le gaz, de 56 ans, et le charbon, un peu plus, 140 ans. Ces réserves sont effectivement relativement faibles et encouragent à trouver et développer des sources plus pérennes.
Qu'en est-il en France quant à leur utilisation ?
Alors en France, il ne reste plus que deux centrales électriques au charbon. On se demande bien pourquoi. C'est assez simple. L'une est en Loire-Atlantique, à Cordemais, et l'autre en Moselle, à Saint-Avold. Leur fermeture est programmée pour 2027. Le grand intérêt est leur réactivité très élevée face au pic de demande en énergie. C'est pour ça que l'on a besoin de ces énergies-là. C'est pour cette raison qu'il est compliqué de s'en passer.
Comment peut-on classer l'énergie nucléaire ?
Alors l'énergie nucléaire, c'est une énergie fossile. Elle est produite à partir de l'uranium. Ses grands avantages sont une très faible émission de CO2 et d'être relativement bon marché. Les principaux inconvénients sont la sécurité et le stockage des déchets radioactifs. L'énergie nucléaire offre cependant à la France une ce qui est vraiment important, une indépendance énergétique, ce qui n'est généralement pas le cas des grands pays européens.
On a parlé des énergies fossiles, vous avez évoqué également les énergies renouvelables. Peut-on les définir ?
Oui, alors les énergies renouvelables proviennent de sources naturelles inépuisables, comme le vent et le soleil, l'eau, la chaleur de la terre, ou encore de matières organiques. On peut citer les cours d'eau et les chutes d'eau, la force de la mer, le rayonnement solaire, la force du vent, la géothermie, les déchets et la biomasse. On peut remarquer qu'il n'y a pas de pollution directe liée à ces énergies. Par contre, il y a une pollution indirecte liée à l'extraction des minerais comme le lithium, le coltan, le cuivre, etc., qui sont nécessaires pour les alternateurs et tous les rotors des machines. Malheureusement, la plupart de ces énergies sont intermittentes et non pilotables.
Nous n'avons pas de contrôle.
Voilà.
Alors pourquoi l'intermittence et le fait que les énergies renouvelables ne sont pas pilotables est un problème ?
En France, par exemple, et cela est vrai pour tous les pays, il y a des pics de demande. Par exemple, le soir, en hiver, quand tout le monde rentre du travail. Il est évident que le soir, il n'y a pas de soleil pour alimenter les panneaux et le vent peut ne pas être là pour faire tourner les éoliennes. Par exemple, un grand blackout en Espagne et au Portugal a eu lieu le 28 avril 2025. Ce blackout est dû à l'impossibilité du réseau photovoltaïque à fournir la brusque demande. À partir du moment où l'équilibre entre l'offre et la demande est rompu, le système disjoncte localement. Les autres systèmes qui sont interconnectés ne sont plus capables de répondre à ce pic de demande et disjonctent à leur tour. Cela pointe l'importance pour le fournisseur d'énergie de toujours adapter l'offre à la demande. Et cela est techniquement très compliqué.
Y a-t-il d'autres problèmes liés aux énergies renouvelables ?
Oui, on a vu les grands intérêts des énergies renouvelables. Par contre, elles souffrent du fait qu'il est très difficile de stocker leur énergie à grande échelle. À un niveau local, il est possible d'utiliser un système de batterie. Ce système de batterie reste relativement cher et à durée de vie limitée. Les batteries ne sont pas très adaptées à être utilisées à grande et à très grande échelle. Un problème majeur est que la puissance installée de ces énergies doit être 3 à 5 fois la puissance demandée. Le réseau doit de plus être fortement maillé afin d'absorber les pics de demande.
Alors la France est un pays avec beaucoup de centrales hydrauliques. Est-ce une source d'avenir, Patrick ?
La France possède plus de 2600 installations hydrauliques. La plupart étant très petites sur des cours d'eau et est, avec la Suède, l'un des principaux producteurs d'énergie hydraulique de l'Union européenne. Il faut noter qu'il faut toujours avoir de l'eau et que les périodes de canicule ne sont pas propices pour ces sources d'énergie. Les centrales hydrauliques utilisent la force des cours d'eau, des marées ou encore de la houle. La force de l'eau fait tourner des turbines qui produisent de l'électricité. Il peut y avoir des conséquences pour l'environnement. Par exemple, quand on érige un barrage, on va inonder de nombreuses terres. Il y a en France un procédé très intéressant qui s'appelle le STEP, qui est l'acronyme de Station de transfert d'énergie par pompage. On utilise deux bassins situés à des altitudes différentes. Lorsque la demande électrique est faible, des pompes remontent l'eau du bassin inférieur dans le bassin supérieur. Cette technique très mature permet donc de stocker de l'énergie facilement. En France, il y a 7 barrages qui utilisent cette technique. Le plus important est celui de Grand-Maison, dans l'Isère, avec une puissance de 1800 MW. Le STEP est un procédé astucieux pour stocker de l'énergie, et cela dans la mesure où il y a de l'eau, évidemment. Dans le monde, les pays les plus en pointe dans ce domaine sont la Chine, et curieusement la Chine dans ce type d'énergie est à la pointe, les États-Unis, l'Italie et la France. En 2024, l'hydroélectricité représentait 15,8% du mix énergétique en France.
Y a-t-il d'autres énergies hydrauliques ?
Effectivement, il y a d'autres sources hydrauliques. Citons par exemple l'usine marémotrice de la Rance en Ille-et-Vilaine qui utilise la force des marées. Le principe est le suivant. La marée montante est piégée par un barrage situé sur la rivière La Rance, qui est ensuite vidée pour actionner des turbines. C'est une énergie bon marché. Ce système présente, malheureusement, l'inconvénient d'envaser tout l'estuaire de la Rance. On peut également citer les hydroliennes, qui sont des turbines actionnées par des courants marins importants. En France, il y a un potentiel élevé en Bretagne et en Normandie. Par contre, de nombreux problèmes apparaissent. Le câblage est difficile. L'écosystème, aussi bien la faune que la flore, est détérioré. Les pales sont usées par l'érosion due au sable. Ce sont des dispositifs très chers. Les hydroliennes fluviales sont plutôt favorisées. Un autre système dit ETM, pour énergie thermique des mers, exploite le différentiel de température entre l'eau en surface et en profondeur. C'est le principe de la pompe à chaleur. Cette énergie est abondante et prévisible, disponible 24 heures sur 24 toute l'année. C'est un investissement très lourd qui ne fonctionne que dans les zones tropicales et intertropicales, où la différence de température doit être au moins de 20 degrés. Un prototype est en test sur l'île de la Réunion. Un autre système est basé sur l'énergie osmotique, qui exploite la différence de salinité entre l'eau de mer et l'eau douce. Les deux eaux sont séparées par une membrane osmotique semi-perméable. La pression créée par la migration de l'eau à travers la membrane est utilisée pour faire tourner une turbine. Un prototype est en test en Norvège. Son coût est malheureusement très élevé et nécessite des surfaces énormes.
On voit fleurir dans le paysage de nombreuses éoliennes. Est-ce l'avenir ?
L'éolien s'implante de plus en plus sur le territoire, bien que de nombreuses personnes n'en veulent pas dans le fond de leur jardin pour des raisons d'esthétique et de bruit. La production d'électricité par l'éolien est aujourd'hui d'environ 10%. C'est une énergie verte, inépuisable, mais intermittente.
C'est en Espagne, non ? C'est ceux qui utilisent beaucoup cette énergie-là, non ?
Aussi, oui, il y en a beaucoup en Espagne, effectivement. Quand un anticyclone est présent sur le territoire, voire sur l'Europe, le vent peut ne pas être du tout au rendez-vous, donc pas d'électricité. On reproche aux éoliennes d'être bruyantes et de causer la mort de 5 à 8 oiseaux par an et par éolienne. Une éolienne classique fonctionne avec des vents compris entre 10 et 50 km/h. En dessous, ça ne marche pas, au-dessus non plus. En dehors de cette fourchette, l'éolienne est arrêtée, ce qui peut être problématique. Une éolienne classique a un mât de 100 mètres, c'est énorme, on ne s'en rend pas compte, et chaque pale mesure 50 mètres. Il y en a des plus grandes, mais ça, ce sont les classiques. Il est prévu d'installer 15 000 turbines d'ici 2030. Le rendement d'une éolienne est relativement médiocre, compris entre 20 et 25%. Ça correspond au facteur de charge, compte tenu qu'il n'y a pas du vent tout le temps et que quand il n'y en a pas assez ou trop, on ne peut pas fonctionner. Sa durée de vie est comprise entre 15 et 20 ans, ce qui n'est pas extraordinaire non plus. Son recyclage est assez problématique. On aurait tendance à privilégier l'éolien maritime. Dans ce cas, les nuisances sont réduites. Le rendement meilleur, mais le caractère très fluctuant du vent marin est compliqué à gérer. En effet, il y a toujours du vent, mais sans arrêt, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. La puissance délivrée par une éolienne en mer est comprise entre 6 et 12 mégawatts, comparé à 2 à 3 pour une éolienne terrestre.
Donc j'ai bien compris qu'il y a pas mal de contraintes sur le système éolien. Dans notre région, avec le soleil du sud, on voit pas mal de champs de panneaux photovoltaïques.
Oui, l'énergie lumineuse du soleil est recueillie par des capteurs photovoltaïques et permettent la production d'électricité et ou d'eau chaude. C'est une énergie verte non polluante à l'utilisation. Ce n'est pas du tout le cas pour la fabrication et le démantèlement des panneaux. Comme toutes les énergies renouvelables, cette énergie est intermittente en fonction des éléments, nuit, nuage, propreté des panneaux. La production dépend évidemment de la région et de l'orientation des panneaux. Évidemment, on ne met pas les panneaux au nord, il faut qu'ils soient orientés plutôt au sud. de l'ombre possible créée par une cheminée ou des arbres qui peuvent complètement faire écrouler la production. Pour le particulier, il est possible de revendre sa production à EDF et ou la consommer. Aujourd'hui, il est beaucoup moins intéressant de revendre sa production. Au niveau industriel, les panneaux demandent des surfaces très importantes. Alors on voit souvent fleurir sur des parkings, sur les toits de parking, des panneaux, donc c'est pas mal. Mais il est nécessaire d'avoir des surfaces vraiment importantes.
Existe-t-il d'autres systèmes solaires ?
Alors, oui, il y a des centrales dites à énergie solaire thermique, à concentration. Alors, l'intitulé peut sembler compliqué, mais c'est relativement simple. Les photons du soleil sont captés par un grand nombre de miroirs et concentrés vers une chaudière. Il est possible d'atteindre des températures comprises entre 250 et 1000 degrés. C'est vraiment intéressant pour les régions à fort ensoleillement. Il existe des centrales au Nevada, Crescent Dunes, et en Espagne, Solar 13. En France, le projet Pégase, sur le site de Témis, dans les Pyrénées-Orientales, a été abandonné, pas assez rentable compte tenu de l'ensoleillement. Ce type de centrale est vraiment intéressante dans des zones désertiques ou semi-désertiques.
Depuis tout à l'heure, on parle en effet des énergies renouvelables et du coût que ça engendre. Existe-t-il des énergies naturelles et qui sont également bon marché ?
Oui. Alors là, on peut citer l'exploitation du flux géothermique naturel à la surface de la Terre. Des forages, plus ou moins profonds, permettent d'injecter un fluide, de l'eau par exemple, qui se réchauffe et est ensuite récupéré. En France, il y a environ 160 000 logements qui sont chauffés par géothermie. C'est un moyen de production continue et bon marché. On peut également citer la biomasse, produite par combustion ou par méthanisation de matières biologiques. Cela peut être du bois ou tout autre résidu. La dégradation par des micro-organismes de la matière organique permet de récupérer du biogaz. La production est relativement faible.
Le nucléaire est très important en France. Quelle est la situation ?
En France, il y a 18 centrales nucléaires avec 57 réacteurs nucléaires. C'est-à-dire que dans une centrale, il y a plusieurs réacteurs. Et 417 réacteurs dans le monde, ce qui représente la troisième source de production dans le monde. Pour la moitié, ces réacteurs sont situés aux États-Unis, en France et en Chine. L'avantage majeur du nucléaire en France est que celui-ci nous offre une indépendance énergétique. Les deux principaux inconvénients sont la gestion des déchets et la peur d'un accident nucléaire. Pour les déchets, il y en a de deux types, ceux à durée de vie courte et ceux à durée de vie longue. Les déchets à durée de vie courte représentent 90% du volume total des déchets. Leur gestion n'est pas très problématique. Ils sont conditionnés et stockés dans des cellules en béton à Soulaine et à Morvilliers dans l'Aube. Les déchets à durée de vie longue, ceux-là sont un peu plus problématiques, peuvent être radioactifs sur des durées de plusieurs dizaines de milliers d'années, voire beaucoup plus, même des centaines de milliers d'années. Ils représentent 10% du stock total des déchets et concentrent 99,9% de la radioactivité totale. Les déchets ultimes non valorisables sont d'abord vitrifiés, puis conditionnés dans des fûts isolants en béton, acier ou plomb, puis stockés dans des galeries géologiques stables à 500 mètres de profondeur, par exemple sur le site de Bure dans la Meuse. Alors là, je pourrais rajouter qu'il y a quelque chose de très intéressant, c'est que au Gabon, à Oklo, il y avait des mines à ciel ouvert d'uranium, et les physiciens et ingénieurs qui s'occupaient du site sont aperçus qu'il y avait un problème de teneur en uranium. Et en voulant expliquer et comprendre ce qui se passait, ils se sont aperçus que le site était un réacteur nucléaire à ciel ouvert. Depuis des millions d'années, c'était une centrale nucléaire à ciel ouvert. Alors, ce qui est intéressant et même quelque part rassurant, c'est qu'on s'est aperçu que les radionucléides les plus, qui ont une durée de vie la plus longue, c'est-à-dire des centaines de milliers d'années, eux, n'avaient quasiment pas bougé. Pourquoi ? Parce que ce sont des gros atomes, gros, bien lourds, bien pâteaux, qui ne bougent quasiment pas. Et ils sont restés sur place, à ciel ouvert, et ils ne se sont pas trop diffusés. Donc ça, c'est relativement rassurant. Bien, à part cet aparté, pour la peur, donc pour continuer sur la peur, les accidents nucléaires sont heureusement rarissimes. On peut quand même citer trois accidents majeurs. En 1979, à Three Mile Island aux USA, une suite d'événements inappropriés, suite à un incident, le cœur du réacteur 2 a en partie fondu et une très faible quantité de radioactivité s'est retrouvée dans l'environnement. En 1986, le plus célèbre est Tchernobyl. Suite à une série d'erreurs humaines et de défauts de conception, le réacteur 4 subit une fusion du cœur, puis explose. De grandes quantités de radioisotopes sont rejetées dans l'atmosphère. 250 000 personnes sont évacuées. On dénombre environ 3 000 morts. En 2011, à Fukushima, au Japon, conséquence d'un tsunami de plus de 14 mètres, dans ce cas, il y a eu une perte totale des alimentations électriques et du refroidissement, ce qui entraîne la fusion des cœurs des réacteurs 1, 2 et 3. Il y a eu de grandes quantités de radioisotopes projetés dans l'océan Pacifique. Aucun mort lié à la radioactivité n'est à déplorer, mais environ 16 000 décès liés au tsunami et au séisme. Une zone de 30 km autour de la centrale a été évacuée, soit 300 000 personnes. Alors, ce qu'il faut noter, c'est que suite à ces accidents, à chaque fois, des modifications sont apportées pour éviter que cela se reproduise. Suite à Fukushima, la pression politique est très forte et souvent dominée par la peur. En Allemagne, décision d'accélérer la sortie du nucléaire. Forte montée des énergies renouvelables et dépendance accrue au charbon et au gaz extrêmement polluants. En Italie, abandon du retour au nucléaire. En Suisse, sortie progressive du nucléaire. En France, renforcement des mesures de sûreté. Discussion sur la réduction de la part du nucléaire, mais sans sortie programmée.
Alors, je digresse un peu de mes questions, mais en effet, à chaque fois qu'il y a eu un incident nucléaire, la peur a régné, ce qui est normal. Mais tout comme dans l'aviation, où à chaque fois qu'il y a un crash, on comprend pourquoi le crash a lieu et on adapte les normes. En fait, la question que j'aimerais poser, c'est est-ce qu'on a des chiffres sur les énergies fossiles comme le pétrole? Est-ce qu'on a des chiffres des morts en fait, liées à ces énergies-là? Parce que j'imagine que la combustion du charbon, la combustion du pétrole, ça déclenche des cancers, ça déclenche des accidents qui peuvent arriver. Pourquoi les gens se retiennent que le nucléaire? Peut-être que c'est impressionnant, c'est catastrophique
oui,
comme truc.
Alors, c'est effectivement impressionnant, mais pour répondre à cette question, bon, on n'a pas vraiment de chiffres, mais que des suppositions et des estimations purement, mathématiques. C'est comme dans le cas de la pollution, on dit qu'il y a 48 000 morts par an en France liés à la pollution, mais en fin de compte, c'est purement des statistiques et on n'en sait strictement rien. Une étude d'Harvard a dit qu'il y en avait plus de 100 000. Bon, alors ça pourrait être deux fois moins, ça pourrait être deux fois plus. Il suffit de changer un curseur, bon. Et pour les énergies fossiles, c'est exactement la même chose. C'est extrêmement compliqué parce que pour évaluer ça, il faudrait comparer un groupe témoin que l'on n'a pas forcément, et sur un temps très long. Donc c'est extrêmement compliqué, donc tous les chiffres qui pourraient venir, ce ne seraient que des estimations.
D'accord. Pour revenir du coup
oui.
à notre sujet de base, on parle beaucoup du mix énergétique primaire. Qu'est-ce que cela représente?
Alors le mix énergétique correspond à toutes les sources d'énergie qui vont contribuer à la production d'électricité. En 2023, cette production se répartissait de la manière suivante. une grande partie pour le nucléaire, 65,82%, l'hydraulique, 11,90%, l'éolien, 10,26%, le gaz, 6%, le solaire, un peu plus de 4%, les bioénergies, 2,45%, et le charbon, là, c'est vraiment très minime, puisqu'on n'a plus que deux petites centrales, 0,16%.
Quelle serait alors la bonne répartition des énergies ?
Alors la question est vraiment très intéressante car elle nous amène à parler de ce qu'on appelle la transition énergétique. La transition énergétique définit le changement des modes de production et de consommation. Une étude de RTE, très intéressante, montre que l'un des meilleurs scénarios serait d'avoir 50% d'énergie nucléaire et 50% d'énergie renouvelable à l'horizon 2050. Compte tenu de l'intermittence de l'éolien et du solaire, il n'est pas raisonnable du tout que cette part soit majoritaire. On a vu ce qui s'est passé en Espagne.
Et quels sont les pays les plus gros consommateurs d'énergie ?
Alors là, il y a deux façons de voir le problème. Par pays ou par habitant. Par pays, la Chine est loin en tête, suivie par les États-Unis. Alors, curieusement, et d'une manière, c'est même amusant, l'entité troisième plus gros consommateur est Internet, et devrait être premier en 2030. Alors, par habitant, les États-Unis remportent la palme. Un Américain consomme trois fois plus qu'un Chinois.
Et pour, alors parlons maintenant d'avenir, si vous le voulez bien, messieurs. Patrick, quelles sont les énergies d'avenir ?
Alors, on peut citer deux énergies qui ont un fort potentiel, l'hydrogène et ITER. Alors, pour l'hydrogène est très abondant sur Terre. 75% de la masse de l'univers est constituée d'hydrogène, donc il y en a beaucoup. On peut extraire l'hydrogène à partir de l'eau, mais cela demande une très forte quantité d'énergie. Il est donc intéressant de produire de l'hydrogène à partir d'énergies renouvelables, éolien et solaire, pendant les périodes où l'on n'a pas besoin d'énergie. Par exemple, l'été, quand il fait très beau, on a besoin de se chauffer. C'est ce que l'on appelle l'hydrogène vert. Les grands intérêts de l'hydrogène sont qu'ils n'émettent pas du tout de CO2 en brûlant. En brûlant, l'hydrogène va générer de l'eau, tout simplement. Il peut être stocké, ce qui est aussi très intéressant, sur de longues périodes. Par exemple, des prototypes de voitures fonctionnent déjà à l'hydrogène. L'autre méthode pour créer de l'électricité, sans les défauts du nucléaire, est la fusion nucléaire ou thermonucléaire. Cette opération s'accompagne d'une très forte élévation de température. C'est le même phénomène qui se produit dans les étoiles comme le Soleil. Il est nécessaire d'avoir des conditions de température et de pression particulières pour y arriver. ITER, pour International Thermonuclear Experiment Reactor, est un projet de recherche international situé, pas très loin d'ici, à Saint-Paul-les-Durance, dans les Bouches-du-Rhône. Le principe est de faire un plasma à partir du deutérium et du tritium, présents en grande quantité dans l'eau, et aussi dans les centrales nucléaires. Le confinement est réalisé par quatre aimants supraconducteurs. Il faut confiner très fort pour réussir à faire un plasma. La température du plasma est alors de 150 millions de degrés, mais très localement. ITER créera des déchets très très faiblement radioactifs, quasiment rien. Il ne peut pas y avoir d'explosion nucléaire, ni de réaction en chaîne. Donc c'est rassurant. Les premiers essais sont prévus à l'horizon 2025 et la production d'électricité pour 2050.
Merci Patrick.
Merci à vous.
Merci à vous.